France Musique.
Plaisir du Quatuor par Stéphane Goldet.
Une œuvre de circonstance aujourd'hui, en ce mois qui est encore un mois pascal, le mois d'avril. Les sept paroles du Christ en croix, Quatuor opus 51 de Joseph Haydn. Un cas singulier de son catalogue, ce quatuor-là que je m'en vais vous raconter avant que nous l'entendions dans son intégralité, mais dans une version que vous n'avez peut-être jamais entendue, celle pour double quatuor, un quatuor instrumental et un quatuor vocal, les deux en même temps. Haydn était entré à peine 30 ans au service du prince Esterhazy. Nous sommes en 1761, il a 29 ans exactement. Et 20 ans après son entrée au service de ses fastueux mécènes, cette fastueuse famille des Esterhazy, entre les récits des visiteurs étrangers reçus là-bas, à 100 km de Vienne, à Esterhazy, en grande pompe musicale, et la libre circulation des partitions, il n'y avait aucun droit d'auteur à l'époque qui aurait pu freiner la diffusion de la musique de Haydn. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au milieu des années 1780, Haydn était, et de loin, le plus connu et le plus admiré des musiciens européens. Et à partir de ce moment-là, les commandes se sont mises à arriver de partout, de Paris. C'est pour Paris qu'il a appris, il a écrit ses premières grandes symphonies, pour grand effectif, les symphonies parisiennes. De Londres, d'Espagne, où un chanoine de Cadix lui commande, pour la cérémonie du Vendredi Saint, sept symphonies, tenez-vous bien, sept symphonies, précédées d'une introduction et du tremblement de terre qui suivit la crucifixion. Imaginez un peu, c'est Haydn qui raconte. Il est midi. Murs, fenêtres et piliers de la cathédrale tendus de noir. Une seule grande lampe pour que le noir ne soit pas complet. Après un prélude qui mettait en condition, l'évêque montait en chaire et prononçait une des sept paroles. Puis la commentait. Après quoi, il descendait de la chaire et se prosternait devant l'autel. Et cet intervalle de temps était rempli par la musique. L'évêque remontait en chaire, en redescendait une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et chaque fois, l'orchestre intervenait à la fin du sermon. « Ma tâche, écrivait Haydn, consistait à faire se succéder, sans lasser l'auditeur, sept adagio devant durer chacun environ 10 minutes, m'avait-on demandé. » « Haydn était un homme de foi, vous savez, habité du Dieu chrétien, du Dieu miséricordieux. Je crois que c'est vraiment le seul des grands compositeurs viennois à avoir conservé ce qu'on appellerait la foi du charbonnier. La preuve, tant de partitions, y compris les plus profanes et surtout les quatuors, où il écrit Haydn Laus Deo, louange à Dieu, sous les dernières notes qu'il vient de composer. Haydn donc fut enchanté de cette commande de Cadix. Pensez donc, lui qui est l'innovation fait homme. C'est pas une messe, c'est pas une cantate. C'est un sacré défi, oui. 7 purs adagios de suite, sans risquer d'ennuyer. Il fut enchanté peut-être au départ de cette commande, mais il mit quand même près de 2 ans à la livrer. Comme Haydn fut satisfait du résultat, mais comme l'homme de foi qu'il était ne voulait pas qu'on exécutât cette nouvelle symphonie en concert hors de son contexte, avec ses 7 dernières paroles du Christ, Haydn a toujours pratiqué la succession des mouvements contrastants dans toutes ses œuvres instrumentales, mais vraiment toutes. Haydn, après avoir livré son affaire là, au chanoine de Cadix, commença par la réduire. La réduire comme on réduit une sauce en cuisine. La réduire pour quatuor, parce que le quatuor, c'est son stylo, sa feuille de papier la plus naturelle. Et pour instrument à clavier, je réduis, je me concentre sur mon essentiel et on voit après ce que ça peut donner. Mais là aussi, 7 adagios successifs, ça ne le satisfaisait pas plus au piano qu'à l'orchestre. Il n'y a pas de musicien plus honnête et plus intègre que Haydn. Et puis que voulez-vous ? Transformer une pièce à caractère sacré qui n'illustre pas mais prolonge un texte, et quel texte, les 7 dernières paroles du Christ, en quatuor ? Non, ça ne satisfaisait pas complètement non plus. Il continuait à chercher et il s'en ouvrit à son directeur de conscience musicale préféré, entendez l'homme qui leur fit découvrir à Mozart et à Haydn Jean-Sébastien Bach, celui qui sera, après cette affaire des 7 dernières paroles de Christ, le librettiste de la création et des saisons de Haydn, le baron von Swieten. Le baron von Swieten, ravi, lui proposa la transformation de cette affaire en oratorio. Haydn était content. Impossible alors pour le public de ne pas comprendre la raison d'être de cet enchaînement de mouvements lents et de la vivre dans sa réalité. Quelque chose de nouveau ? Formidable pour Haydn. D'autant plus que c'était nouveau pour le librettiste aussi. D'habitude, quand on fonctionne sur un texte, on fournit d'abord un texte et puis on le coupaille si nécessaire. Mais c'est le musicien qui, en quelque sorte, habille le texte. Et là, c'est le contraire. Haydn a fixé la règle nouvelle. Il demanda à von Swieten d'écrire des paroles qui ne fassent que développer le climat de chacune des 7 dernières paroles du Christ. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je vous le dis. Femme, vois ton fils. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? Mais la grande nouveauté, c'est qu'il fallait tenir compte de la musique déjà écrite. Parce qu'il en était très content de sa musique, Haydn. En clair, que Haydn ne changerait pas une double croche de ses 7 dernières paroles du Christ. Et c'était au texte de s'adapter à la musique, de faire corps avec elle et non l'inverse. Et ça, c'est drôlement moderne. Et vraiment pas dans les mœurs du XVIIIe siècle. Je vous assure que Haydn ne fait jamais, jamais, jamais rien comme tout le monde. un extrait de la version en oratorio des sept paroles du Christ dans la version de Haydn, dans la version dirigée par Nicolas Arnoncourt. Le résultat de cette transformation, donc de cette réélaboration des sept paroles du Christ, opus 51 de Haydn, il fallut 5 ans pour l'obtenir. Ce fut une version qu'on représente parfois et que nous voulions entendre un extrait pour orchestre et chœur. C'est ce résultat qui plut à Haydn et qui en autorisa la diffusion. Mais il y avait un bémol, Haydn était un homme qui avait les pieds sur terre, hein, c'était le fils d'un charron, c'était un paysan. Et un chœur, Haydn trouvait que ça se comprenait toujours moins bien que des solistes. Et si on réduisait à nouveau le tout ? Résultat, la version que vous allez entendre maintenant, réduction par Haydn de la version pour chœur et orchestre, en une version double quatuor, vocale et instrumentale. Et j'avoue n'avoir découvert que tout récemment que ce que je prenais pour une invention du XXe siècle de Wolfgang Riem dans son Et Lux avait été inventé une fois encore par Haydn en personne. Donc je résume. Première version des sept paroles du Christ de Haydn, sept adagio pour orchestre. Deuxième version pour quatuor seul. Troisième version pour instrument à clavier. Quatrième version pour orchestre avec chœur. Et cinquième version, celle que je vous propose que nous écoutions ensemble, retour aux fondamentaux de l'écriture à quatre parties, les sept paroles. N'est-ce pas un fondamental de notre culture ? C'est cette cinquième version qu'a enregistré le Quatuor Juilliard pour fêter le 200e anniversaire de la première de cette œuvre-là en 1987, en appliquant sa devise depuis son origine, qui était de jouer la musique de répertoire comme si l'encre en était encore à peine sèche. Le Quatuor Juilliard, Benita Valente, Jeanne de Gaetani, John Humphrey et Thomas Paul, dans les sept dernières paroles du Christ en croix, opus 51 de Haydn.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
La dernière des cinq versions données par Haydn des sept dernières paroles du Christ en croix qui constitue l'opus 51 du compositeur. Celle pour quatuor à cordes et quatuor vocal. Les interprètes en étaient les membres du quatuor Juilliard qui, en 1987, au moment donc du bicentenaire de cette œuvre, au moment où l'ensemble américain a fait cet enregistrement, était constitué de son premier violoniste créateur, Robert Mann, qui en fut le premier violon, je le rappelle, de 1946. Et cependant, à partir de 1946 et jusqu'en 1997, c'est-à-dire pendant 51 ans. Puis Samuel Rod était l'altiste, Joël Smirnoff, qui a ensuite pris la succession de Robert Mann, en était le deuxième violoniste, et Joël Krosnick en était le violoncelliste, côté chanteur, Benita Valente, Jeanne de Gaetani, John Humphrey et Thomas Paul. Et demain, n'oubliez pas votre rendez-vous, si vous le voulez, avec le concert des plaisirs du quatuor, au studio 106 à 19h, le quatuor Diotima dans un programme double B, Beethoven et Pierre Boulez.